C'est ce vendredi que commence à Moiran en montagne la 38e édition du Festival de musique baroque du Jura, à ne pas confondre avec l'autre festival dans ce département, puisque depuis l'an passé, il y a deux festivals, donc les saisons baroques du Jura, ce sera cette fois au mois d'août. Pour donc ce festival qui commence vendredi, une équipe partiellement renouvelée, à commencer par votre arrivée, Jean Delescluze. En tant que directeur artistique, programmateur, vous allez nous le dire, est-ce que je peux dire que vous êtes une sorte de récidiviste en matière de gestion de festival d'été ?
Effectivement, j'arrive de la Drôme où j'ai été le directeur du festival Souche entre Mozart, qui est un très beau festival consacré à Mozart, qui existe depuis à peu près 35 ans. Et alors là, je précise quand même que je ne suis pas le directeur du festival au sens en fait où il y en a pas. On est trois à travailler ensemble, un petit peu comme un comité. Il y a un président qui est très actif, très présent, Sylvain Dionnet, qui assure tout le rayonnement du festival sur son territoire et notamment en termes politiques et financiers. Il y a une administratrice et puis moi, je suis directeur artistique. Sachant que la clé, c'est d'arriver à travailler tous ensemble dans le même sens pour arriver à composer effectivement une programmation, mais qui ne soit ni imposée à un projet, mais qui vienne vraiment dans un échange, y compris d'ailleurs avec le conseil d'administration. C'est vrai que c'est la première fois que j'assure la programmation et uniquement la programmation d'un festival. Je renoue ainsi plus avec un contenu musical et j'en suis très heureux puisque je viens de la musique. J'étais musicien et chanteur, je suis encore d'ailleurs.
Lorsqu'un nouveau directeur arrive, il apporte ses idées. Vous êtes dans une histoire, puisque je le disais au début de notre conversation, c'est la 38e édition, ça veut dire que j'en ai eu 37 auparavant. Comment on s'y prend pour ne pas prendre à contre-pied les traditions tout en amenant sa patte et ses envies ?
Un festival, il est amené à évoluer de par le fait qu'il dure. Et là, on est sur 38 ans, donc effectivement, il y a forcément une évolution qui est liée à celle de la société, à celle de la scène musicale, à des choses qui nous échappent. Par exemple, le Covid a énormément impacté notre milieu. La façon dont on faisait les choses ne sont plus forcément à jour. On réfléchit beaucoup à l'enjeu climatique et puis à l'enjeu social. Et ce sont des choses qui aujourd'hui transpirent dans les programmations et qui, à l'époque où la vie d'un directeur artistique, d'un programmateur était peut-être plus confortable, où il y avait un peu plus d'argent, il y avait un public qui venait plus facilement dans les festivals, tout ça, voilà, il faut vraiment aujourd'hui s'interroger plus précisément sur ces enjeux, parce qu'un festival ne peut plus être une saison de concert réservée à, je dirais, un public de mélomanes qui connaît déjà ou qui vient parce qu'il connaît tel artiste. Il faut vraiment essayer d'aller chercher le public et de construire quelque chose qui soit très en lien avec le territoire. Le Jura, c'est quand même très particulier. Nous, on intervient dans la communauté de communes de Saint-Claude et puis sur la Terre d'Émeraude. Ce sont des territoires peu peuplés. Il n'y a pas tant que ça de lieux de concert non plus. Il faut imaginer des choses. Il faut se poser la question du déplacement des publics. Pourquoi on doit faire 1h30 de voiture? Et est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire pour aller écouter un concert? Des choses comme ça importantes qui influent forcément sur le choix de tel ou tel artiste. Ça, je peux éventuellement vous en parler aussi.
Et c'est ainsi que vous annoncez l'ouverture vers d'autres formes d'art et une nouvelle manière ou une nouvelle façon d'écouter la musique baroque. Est-ce qu'au bout du compte, on ne risque pas d'y laisser son âme tout de même?
Non, je ne pense pas que ce soit un choix totalement extrême. Dans ma programmation, il y a toujours les fondamentaux qui existent depuis 38 ans et qui ont fait la renommée du festival, c'est-à-dire des artistes à très grande renommée, les meilleurs. Cette année, Alexis Kosenko avec les ambassadeurs de la Grande Écurie, Marc Minkowski avec les musiciens du Louvre, et puis également des ensembles de la région comme les Masques ou les Artifices avec Alice Julia Laferrière. Donc ça, si vous voulez, c'est le socle qui va permettre le choc musical dans lequel on espère et on croit. Aujourd'hui, les projets doivent emporter l'adhésion d'une communauté, j'en suis à peu près vraiment persuadé, et que cette communauté de spectateurs, elle doit s'élargir, inclure les gens qui n'ont pas accès ou la connaissance de ces répertoires. Et je pense qu'en allant au cinéma, par exemple, ou en allant plutôt dire à ses enfants, bah tiens, on va se promener aujourd'hui, on va peut-être quand même ouvrir la porte du choc musical et de la musique baroque, mais peut-être d'une manière détournée, mais je pense pas qu'on y ait perdu son âme, parce que le résultat, fera que le lendemain soir, ces mêmes gens voudront suivre les artistes dans un autre programme, dans un autre lieu, et ils viendront au concert.
Vous annoncez des expériences d'écoute inédites, donc ça veut dire qu'on continue tout de même d'aller au concert.
Oui, oui, on va au concert, essentiellement au concert et toujours au concert. Simplement avant, après, la veille ou le lendemain, on peut aussi revoir les... En fait, j'ai réfléchi à l'idée que de programmer autour de cartes blanches. C'est-à-dire que le public, dans le premier week-end, il va découvrir Alexis Kosenko, qui est un musicien assez exceptionnel, un grand flûtiste, chef d'orchestre, à qui aujourd'hui on ouvre toutes les portes au niveau national et international, et qui va se dévoiler sous divers aspects. C'est aussi un collectionneur de flûtes, c'est aussi quelqu'un qui fait beaucoup d'actions culturelles envers les enfants. On lui a dit, bah voilà, Alexis, moi je le connais bien, on a co-construit vraiment un week-end ensemble, et je lui ai proposé de venir avec une équipe, de s'installer 3 jours sur le territoire, et d'imaginer en fonction des lieux une sorte de diversité de propositions assez multiples et foisonnantes pour que le public... Moi, je crois à l'idée que quand on va au cinéma, on voit des bandes-annonces, ça nous donne envie d'aller le lendemain voir le film qu'on vient de voir en bande-annonce. Alors, il faut déjà aller au cinéma, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir une première chance d'aller écouter de la musique. Mais je fais le pari qu'en ayant découvert ce premier ensemble le vendredi, par exemple, à Moiran dans un programme italien... extrêmement festif, une partie du public va se dire, tiens, on va les retrouver dimanche dans un programme beaucoup plus anglais. Ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est l'idée d'avoir des allers-retours, des rencontres et de créer une sorte de boule de neige.
C'est un festival qui a toujours été multilieu. Alors cette fois, vous êtes peut-être encore plus itinérant. D'ailleurs, vous créez une caravane musicale.
Effectivement, on a 2 grands week-ends. Et entre les deux, j'avais à cœur de proposer, et je vais essayer de le faire chaque année, un projet qui fera le lien en termes de date entre ces 2 week-ends principaux, mais qui sera vu d'une façon différente, qui devra répondre à certains critères. Pour moi, là, c'est pas le public qui va se déplacer pour venir au concert, mais c'est le contraire. Donc là, j'ai fait appel à un artiste formidable qui s'appelle Olivier Fortin, qui est du reste un artiste de la région, alors la région Bourgogne, et qui a habillé l'intérieur d'un camion, un peu comme un opéra. Et il va faire 3 points du territoire. Le premier point, c'est les Bouchoux. Deuxième point, Orgelet. Troisième point, Molinges. Thank you.
Jean Delescluze, on ne peut pas rentrer dans le détail de tous ces rendez-vous que vous proposez donc jusqu'au 18 juin. Quelques mots tout de même. Alors sur le deuxième week-end, construit cette fois autour de Marc Minkowski et ses musiciens du Louvre, qu'on a vu d'ailleurs à la saison dernière, c'était au mois d'octobre, à Smurand-en-Soie, en Côte d'Or.
Marc Minkowski viendra avec un effectif assez conséquent de 27 musiciens. Je pense que c'est aussi là quelque chose d'assez nouveau dans une programmation.
Vous annoncez le concert de la cathédrale de Saint-Claude comme le concert événement.
Effectivement, c'est un concert avec un orchestre. C'est du Handel. Marc Minkowski, il y a 2-3 compositeurs de prédilection. Il y a Rameau, il y a Handel et Mozart. Donc l'entendre dans un magnifique programme 100% Handel, c'est vraiment assez exceptionnel. Et là aussi, on a la chance d'accueillir Marie Perbost. Elle a gagné la Victoire de la Musique en 2020 de la Révélation. Donc vous voyez, elle est en train de devenir une soprano vraiment de grande renommée, qui va chanter des pièces sacrées qui vont couper le programme qui sera par ailleurs consacré au Concerto Grossi opus 6. Et puis moi, je me suis amusé à programmer au cinéma un film que Marc Minkowski a fait avec Bartabas. Enfin, il n'a pas fait de film, il a créé un spectacle autour du Requiem de Mozart à Salzbourg qui a été filmé. Et là, on va le projeter le mardi 13 juin au cinéma de la Fraternelle. Et puis le lendemain, on pourra le croiser plus intimement au musée de l'Abbaye, où on fera une petite signature autour d'un café, mais un échange sur son métier, sur sa passion pour les chevaux, justement. Et c'est intéressant de mieux comprendre ce que ça lui apporte aussi par rapport à la direction d'orchestre. Il me semble quelque chose à entendre sur ce point-là. J'aimerais quand même parler de l'après-midi, parce que là, on est totalement hors des clous, et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai invité Jacques Rebautier.
Nous voilà bien hors des concerts de musique baroque.
On est complètement hors de la musique baroque, mais on entendra des instruments baroques au cours de cette présentation. En fait, Jacques Rebautier, c'est un poète, un compositeur loufoque et tragique, qui s'est approprié des sujets très importants, et notamment autour de la disparition des espèces. Il fait des visites commentées d'œuvres dans les musées, qui sont assez drôles. Et il a proposé à Thomas Harrison, qui est un joueur de serpents et de cor des Alpes, avec qui il travaille beaucoup, de l'accompagner. Donc ce sont quand même des instruments anciens, d'autant que l'instrument lui-même va sortir du musée de la Cité de la Musique à Paris. Donc ça, on va le faire 3 fois de suite, à 14h, 15h30 et 17h. Les jauges sont très petites, c'est vraiment pour 20-25 personnes qui auront le privilège pendant 45 minutes de déambuler dans ce musée, qui en plus propose actuellement une exposition qui met en lien l'humain et l'animal. Donc c'est aussi une thématique qui est quand même liée aussi à la journée du lendemain, qui va se passer à la chapelle Saint-Romain. Puisque là, j'ai fait appel à Alice Julien Laferrière pour l'essentiel de cette journée.
Donc Artifice.
Oui, voilà, l'ensemble Artifice et le duo Colocante. C'est une jeune femme assez exceptionnelle qui a créé un lieu qui s'appelle La Turbine, au nord de Cluny, qui est aussi donc en région. Ça me paraissait important pour, vous voyez, pour ces projets un peu autour des têtes d'affiche, de travailler avec des artistes de la région, d'autant qu'ils sont ils sont excellents. Donc voilà, c'est pas pour autant que, comme vous disiez, on allait, vous m'avez dit quoi, vendre son âme.
J'ai osé l'expression perdre son âme, oui.
Voilà, perdre son âme. Donc on ne va pas perdre son âme du tout, puisqu'elles nous ont programmé un magnifique duo violon-viol de gambe dans la chapelle, autour d'un disque qu'elles ont fait il y a quelque temps à propos de Louis Couperin, qui a d'ailleurs eu des salué par la critique et qui a reçu les plus beaux prix, comme le Diapason d'or. Donc ça va être un moment très intime. Donc ça, c'est dans l'après-midi. Et le matin, elle va se balader en fait dans la forêt avec ses instruments. C'est une chose qu'elle a énormément travaillée, mais de manière très approfondie. Elle s'improvise pas accompagnatrice ou clown, je ne sais quoi. C'est vraiment, ça fait partie de son ADN. C'est quelqu'un qui a fait une thèse sur l'influence de la musique des animaux dans l'ornementation baroque. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui est arrivé là après avoir dirigé comme violon solo, notamment l'ensemble Correspondance pendant 10 ans. Donc c'est vraiment une fille de très haut niveau et qui a, j'imagine, dans son parcours à un moment donné fait un choix très fort de territoire.
Au fond, le souci, Jean de l'Écluse, c'est de créer, si je dis des passerelles.
Oui, c'est des passerelles, ce sont des pas de côté, ce sont des façons de découvrir des choses, d'être surpris, de ne pas aller vers le connu uniquement, tout en ayant un plaisir musical intense. C'est aussi l'idée qu'un festival se doit pour moi d'avoir une forme événementielle et festivalière, c'est-à-dire que...
C'est la fête.
Voilà, c'est la fête. C'est vrai que ça fait beaucoup. On aurait pu se dire, ben, tout ça, on le fait en 3 semaines. Nous, on le fait en 10 jours. Et il faut que les gens, voilà, le pari, c'est que les gens se rendent disponibles comme un marqueur de leur week-end du mois de juin.
La 38e édition du Festival Baroque du Jura au mois de juin, donc à ne pas confondre avec un autre festival, ce sera au mois d'août avec les saisons baroques du Jura. C'est à partir de vendredi et jusqu'au 18 juin. On met les liens sur le site de BFC Classique.